Parole d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Le thème de cette émission, développement, écologie et apprentissage tout au long de la vie. Le 18 et le 19 mai 2017, c'est donc récent, il y a eu, toujours à Courance, dont on vient de vous parler pour une fête musicale, premier village bio dans le Var, je vous le rappelle, les premiers entretiens de ce village, des entretiens locaux, provinciaux, nationaux et même internationaux. Quel était l'objectif ? Œuvrer à l'émergence de nouveaux modèles alternatifs, autrement dit, comment concevoir de nouvelles pratiques de développement durable et les partager au niveau local. Au cœur de ces entretiens, deux mots majeurs, développement durable et écologie. Et un mot en filigrane, apprentissage tout au long de la vie. Plus de 100 participants, les notes de référence vous indiquera les sites sur lesquels vous pourrez découvrir tout ce qui s'est dit et plus largement découvrir toutes les activités de ce merveilleux village. La seconde journée, des participants ont présenté des projets. Et lors de la clôture, le maire de Corrence a confirmé que les seconds entretiens auraient lieu en 2018, étant donné la réussite des premiers entretiens. M'étant informé sur la première journée à laquelle je n'ai pu assister, j'ai participé à la seconde et j'ai beaucoup écouté. Ces entretiens touchent à des enjeux majeurs de notre pays, de l'Europe et du monde. Mais pourquoi la mise en valeur de la convergence entre développement, écologie et apprentissage au cours de la vie est si souvent oubliée ? Chaque mot a l'impression de provoquer une réflexion en soi et très rarement les trois mots, développement, écologie et apprentissage tout au long de la vie, sont réunis pour travailler. Au retour, pensant à tout ce que j'avais écouté, j'ai construit une esquisse de contribution à débattre. Et si nous avons le temps, je vous en ferai part à la fin de cette émission. Sinon, elle sera dans la note de synthèse www.art-culture-éducation-relié.com/. Mais si vous voulez, en revenant de ces entretiens, j'ai eu trois idées forces. La première, c'est qu'il y a une alliance incontestable entre développement, l'écologie et l'apprentissage tout au long de la vie. Aucun mot ne peut être séparé des deux autres. Je vais essayer de réfléchir avec vous ce soir. Ma seconde, c'est que parmi tous les auteurs, ô combien ils sont nombreux, qu'on pourrait appeler, auxquels on pourrait recourir, j'en vois neuf, plus précisément, que vous connaissez peut-être déjà, dans ce cas-là vous allez les découvrir, ou que peut-être vous ne connaissez pas. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres, mais si nous restons ce soir centrés sur ces neuf, vous allez voir que notre exploration va être très intéressante. Et puis enfin, ma troisième idée, c'est que il faut essayer de temps en temps de trouver des choses de synthèse. Et en rentrant en voiture, tout en veillant à bien rentrer chez moi par l'autoroute, j'ai construit un logo pour le 21e siècle que vous retrouvez aussi sur le site. Mais commençons, si vous voulez, par ces neuf auteurs. Le premier que je vous propose, c'est François Perrault, 1903-1987, 83 ans. La notion de développement renvoie en priorité pour moi à François Perrault. Lorsque j'ai repris mes études universitaires après un CAP et un brevet professionnel, j'ai fait plusieurs formations et en économie, deux enseignants m'ont marqué. L'un a commencé son premier cours par cette proposition, toute chose étant égale par ailleurs. Suivait une démonstration, selon moi, caduque, qui n'avait pas de sens, puisque rien n'est égal par ailleurs. Le second nous a fait découvrir et apprécier François Perrault. De lui, je retiens ses définitions de la croissance et du développement et sa vision de l'économie. La notion de développement durable vient de François Perrault. À propos de la croissance, François Perrault dit que c'est pendant plusieurs périodes longues l'augmentation d'un indicateur donné ou de plusieurs indicateurs. C'est donc une lecture quantitative. Le développement, dit François Perrault, est l'ensemble des transformations, des structures, des mentalités. C'est une lecture qualitative. Dans et pour notre monde se pose en priorité la question du développement durable, ce que visait François Perrault. On le rajoute maintenant, mais à l'époque, on parlait du développement simplement, le mot durable allait de soi. Il faut aussi rajouter que ce développement durable, on l'oublie parfois, c'est un développement intégral et qu'il concerne tout l'homme, tout homme et tous les hommes. Mon Dieu, que nous en sommes loin. Dans cette perspective de développement, la croissance est questionnée. Faut-il une autre croissance? Faut-il des décroissances? Le débat est ouvert. Mais le débat est ouvert à la fois sur la manière d'ancrer le développement et de se réinterroger sur la croissance. Dans cette perspective, le développement ne relève pas seulement de l'économie, mais d'une approche plurielle, anthropo, bio, psycho, sociaux. Pour François Perroux, je me permets de le rappeler, l'économie politique doit s'inscrire dans une véritable science de l'homme et de la société. Et à l'époque, il y a quelques dizaines d'années, il mettait en garde contre un capitalisme débridé qui deviendrait la forme dominante de l'organisation économique du plan mondial. Pour François Perroux, l'économie doit s'inscrire dans une véritable science de l'homme et de la société et ne pas être seulement quantitatif, surtout quand il s'agit du développement dont la visée est avant tout qualitative. Si cela ne se fait pas, disait François Perroux, alors l'économie deviendra une idéologie pour un capitalisme avare et débridé. Ainsi, penser le développement inévitablement durable, c'est à mon avis se référer à l'œuvre de François Perroux. Voilà le premier auteur de base à propos de ce thème que je voulais mettre en valeur. Le second, Henri Laborie, 1914-1995, nous en avons déjà parlé dans une émission antérieure, était médecin, chirurgien, neurologue, éthologue et philosophe. Vous noterez que ces gens que je vous indique sont rarement des spécialistes pointus d'une discipline, sont des gens qui approfondissent un domaine avec une lecture plurielle. Tous ces ouvrages, à Henri Laborie, sont à conseiller. De lui a surgi ensuite de nombreux apports sur les neurosciences qui se prolongent. Mais est-ce que pour autant la conscience sur les enjeux du cerveau a nettement progressé? Laissons le point d'interrogation. Et permettons, avant de quitter François Perroux, de rappeler cette très belle citation d'Henri Laborie. Je disais François Perroux, après François Perroux, de quitter Henri Laborie. À la fin du film « Oncle Amérique », vous avez vu sans doute ce film, mais peut-être vous vous souvenez pas de cette citation. La voici. « Tant qu'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'ici, cela a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit qui change. » Quelle conclusion pour mon oncle d'Amérique, qui est toujours valable. Troisième auteur, Théodore Monod, 1902-2000. Protestant, pacifique, philosophe, humaniste, est souvent présenté comme le dernier grand naturaliste de notre époque. Un explorateur particulièrement reconnu sur le plan des déserts, mais aussi un écologiste. Son dernier ouvrage est une interrogation terrible. Et si l'aventure humaine devait échouer? Chez Grasset, 2000, avant qu'il ne meure. Est aussi à retenir plus particulièrement ce qu'il nous dit. Il nous rappelle que l'antique serpent nous l'avait promis, vous serez comme des dieux. La puissance matérielle, certes, nous l'avons. Mais si l'homme n'a pas la sagesse de respecter la vie, alors le monde ne risque-t-il pas de continuer de vivre sans humanité? Le suivant, c'est Edgar Morin. Là aussi, nous en avons parlé, nous aurons une émission spéciale avec lui en juin. Né en 1921, et oui, à 96 ans, il poursuit de façon très active son chemin faisant. C'est sans aucun doute l'un des plus grands penseurs français vivants. Apport déterminant sur la complexité, la méthode, la pensée, la lecture du monde, l'éducation, le monde. Retenons ici trois ouvrages de lui. L'apport de la méthode, les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Il rappelle que chacun de ces sept savoirs est fondateur de nouvelle humanité, par exemple affronter les incertitudes ou encore apprendre la compréhension. Il y va, ajoute-t-il, de notre devenir et personnel et collectif. Et le plus récent qui vient de sortir, c'est Connaissance, ignorance, mystère aux éditions Fayard. Mais si vous voulez bien, écoutons un extrait de ce livre lu par Anna.
La condition post-humaine. La post-humanité suppose le dépassement de l'humanité actuelle. Elle suppose que, de même que l'essor d'Homo sapiens se fit dans la disparition de Néandertal, d'Erectus et des autres espèces hominiennes, de même le post-humain se fera dans la disparition de l'humain. Mais un véritable progrès post-humain suppose la sauvegarde et le développement des qualités d'âme, d'esprit, de cœur encore sous-développé et si fragile chez l'homme. Notre conscience nous enseigne que l'avenir de l'humanité dépend aussi de l'avenir de la conscience. Il est tragique que la métamorphose post-humaine ait commencé sous la poussée aveugle du triple moteur scientifique, technique, économique, qui propulse le vaisseau spatial Terre, alors que la métamorphose éthique, culturelle, sociale, de plus en plus indispensable à cette métamorphose, demeure encore dans les limbes. Pire, la régression éthique, psychologique, affective accompagne la progression scientifique, technique, économique. La régénération d'un humanisme devenant planétaire et s'enracinant dans la Terre-patrie est nécessaire pour éviter le règne de la nouvelle espèce des seigneurs, disposant de tous les pouvoirs, dont ceux de la prolongation de la vie, sur l'ensemble des autres humains asservis. Là où les métamorphoses biologiques, techniques, informatiques nécessitent surtout d'être accompagnées, régulées, contrôlées, guidées par une métamorphose éthique, culturelle, sociale. Celle-ci est nécessaire pour éviter le pouvoir des machines pensantes, dont nous dépendrons, même si elles dépendent de nous, et qui pourraient peut-être s'émanciper de nous, voire acquérir une conscience, ce qu'avait prédit Gotthard Günther, et dominer le destin post-humain. La métamorphose transhumaine est propulsée par des forces anonymes incontrôlées, qui sont inconscientes du destin qu'elles produisent. La métamorphose humaniste a certes besoin des puissances inconscientes de l'espèce humaine, mais aussi de forces éthiques et réflexives conscientes des individus. Les nouveaux pouvoirs post-humains seraient inhumains s'ils n'étaient pas sous contrôle d'une humanité ressourcée au meilleur d'elle-même. Ajoutons que les promoteurs du transhumain sont enfermés dans une pensée euphorique qui leur occulte l'avenir catastrophique que produit la trinité sans frein, science, technique, économie. Ils ignorent que la science, désormais liée à la technique en technoscience, est une formidable machine incontrôlée qui travaille pour le bien et le mal, la vie et la mort. Ils sont inconscients de la complexité contradictoire que porte en elle la trinité science-technique-économie. Ils sont inconscients que la part de réalisme dans la prédiction transhumaniste est stérilisée par l'inconscience des processus catastrophiques qui contamineront le transhumanisme. Ils sont inconscients que les deux avenirs, commandés par la même trinité, seront en interaction et rétroaction. Et surtout, ils sont inconscients qu'aussi bien pour éviter les catastrophes que pour éviter l'inhumanité de la post-humanité, il faut une profonde réforme intellectuelle et morale. Ils ignorent la barbarie régressive que comporte leur civilisation avancée. Ils ignorent que la folie a toujours été présente dans l'histoire humaine. Ils ignorent, dans leur obsession quantitative de vie augmentée, le besoin primordial de qualité de vie. Ils ignorent l'aspiration à un autre type de civilisation qui émergent un peu partout dans le monde, dans la résistance à l'hégémonie du calcul, du profit, de l'égoïsme, de l'anonymat, et qui est animée par les besoins d'épanouissement, de partage, d'amour et de vie poétique. Ils ignorent qu'on ne peut formuler une éthique et une politique que dans la conscience des complexités humaines. Ils ignorent que la communauté de destin de tous les humains sur Terre exige une conscience commune de Terre-patrie qui envelopperait sans supprimer les patries. Ils ignorent qu'il nous faut un humanisme anthropo-biocosmique. C'est bien de cette aspiration et de cette double conscience que pourrait naître une nouvelle voie pour un autre avenir.
Voilà. Après Edgar Morin, je vous propose un autre auteur qui commence à être connu en France, dont nous avons parlé dans cette émission, Yuval Noah Harari. Lui, il est né en 1976, il est donc très jeune. Professeur d'histoire à l'Université de Jérusalem, il a publié ce fameux livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qui connaît dans le monde entier une renommée immense. Il a été publié dans plus de 40 langues. Je rappelle la dernière phrase de ce livre. La seule chose que nous puissions faire, c'est d'influencer la direction que nous prenons. Mais puisque nous pourrions bien être capables sous peu de manipuler nos désirs, la vraie question est non pas qu'est-ce que nous voulons devenir, mais que voulons-nous vouloir? Si cette question ne vous donne pas le frisson, c'est probablement que vous n'avez pas assez réfléchi. Alors sachez, chers auditeurs, qu'un autre livre a été publié par cet auteur absolument extraordinaire, et ce livre s'appelle tout simplement, j'allais dire, Homo Deus. Et dans ce livre, qui sera publié en français je ne sais quand, je l'espère dans les meilleurs délais, il prolonge sa réflexion. Il s'interroge sur l'humanité, sur le devenir de l'humanité. Il a une vision impressionnante, cosmique, où il mélange à la fois l'histoire, la biologie, les sciences sociales, les sciences exactes, dites exactes, et il explore des perspectives que je n'ai jamais encore rencontrées à ce point sur des auteurs, et plus précisément chez un auteur. Alors, Homo Deus, sachez que ce livre va paraître prochainement en France, et il nous interrogera, il nous prolongera, il propose des pistes, s'interroge. Je pense que ce sont deux ouvrages de l'auteur que l'on ne peut pas ne pas connaître si on ne veut pas réfléchir à cette période actuelle. Un autre auteur dont nous avons aussi parlé cette année, François Chen, né en 1929, venu de Chine avec son père pour fonder l'UNESCO à Paris, maintenant membre de l'Académie française, son dernier livre de l'âme s'adresse à chacun, peu importe sa croyance ou sa non-croyance. Un contenu pour les humains, plein de poésie. Un contenu qui vient de la Chine ancestrale et rédigé de façon, encore une fois, très poétique. Voici, par exemple, trois citations de ce très beau livre. L'esprit résonne, l'âme résonne. L'esprit se meut, l'âme s'émeut. L'esprit communique, l'âme communie. François Chen, un académicien tout à fait extraordinaire, très simple, très humble. Lisez ses livres, et plus précisément ce dernier sur de l'âme, qui est vraiment très beau. Dans la seconde partie, nous continuerons à poursuivre notre découverte des 9 auteurs. Le dernier vous surprendra sans doute, mais je vous le garde pour la deuxième partie. Mais vous entendrez aussi des extraits de 2 auteurs que j'ai pu retrouver. Et dans la deuxième partie, ces contributions ne seront jamais suivies de musique particulière. Ça sera 3 musiques que j'ai choisies. L'eau, le vent et les oiseaux. Alors, je vais vous laisser un peu prendre quelques notes ou prendre un papier pour la suite de l'émission. Nous allons découvrir ces autres auteurs et nous interroger à nouveau sur ce thème développement, écologie et, encore une fois, apprentissage tout au long de la vie. Il me semble que là se trouve pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre réflexion, notre métier, etc., une réflexion essentielle pour cette très grande mutation qui est en cours et que la plupart des auteurs pointent et sur laquelle ils convergent tous. Oui, nous vivons plus qu'une transformation. Oui, nous vivons une grande mutation. Elle est commencée, elle se poursuit, elle va s'amplifier. Nous avons besoin de réfléchir et de lire certains auteurs, mais plus, je vous le dirai dans un instant. Ne nous quittez pas, nous allons écouter les informations et nous allons reprendre dans un instant. Développement, écologie et apprentissage tout au long de la vie. Nous avons déjà parlé de 6 auteurs. François Perroux, Henri Laborie, Théodore Monod, Edgar Morin, Yuval Noah Harari et François Chen. Il nous en reste 3. Nous allons poursuivre par Pierre Rabhi, qui est né en Algérie en 1938. Agriculteur, essayiste, écologiste, fondateur de l'association Les Colibris. Parmi ses récents ouvrages, La convergence des consciences, Les semences, Vive la sobriété heureuse, il nous redit à sa manière quelque chose de fondamental et qu'on finit par oublier. L'écologie, c'est la reconnaissance, c'est l'écoute, la valorisation de toute la nature. L'enjeu n'est pas seulement celui d'une transition écologique, il s'agit d'une métamorphose profonde qui concerne notre relation avec toute la nature. Climat, eau, forêt, animaux, ressources énergétiques, air et tant d'autres aspects. Il y a cette phrase de Pierre qui nous provoque chaque jour. On voit s'ériger des générations d'enfants qui, faute d'un éveil à la vie, sont réduits à n'être que des consommateurs blasés et tristes. Mais plus largement, écoutons Pierre Rabhi maintenant.
Donc nous avons une planète qui est magnifique. Cette planète, elle date, enfin, quand on fait un ratio temporel, sur 24 heures. Bon, elle s'est préparée, et nous sommes advenus il y a à peu près 1 minute et demie à 2 minutes sur toute cette, disons, aventure de la planète elle-même. Donc nous sommes arrivés très tard, et finalement, notre avènement pose problème. Nous venons de commettre un ouvrage avec mon ami Jean-Marie Pelt, qui vient malheureusement de nous quitter. Il avait fait une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur Terre. Parce que c'est quand même un miracle. Elle s'est organisée sur deux principes, l'associativité et la coopération. Ce sont deux éléments fondamentaux qui ont, en fait, donnent la vie et maintiennent la vie. Oui. Et ensuite, il m'a laissé un peu la patate chaude. Qu'en est-il du phénomène humain? On dirait Teilhard de Chardin. Ben, le phénomène humain, malheureusement, a intégré dans cette logique de la coopération la dualité. Et l'être humain a amené la dualité, non seulement humain contre humain, à travers les religions, les croyances, les idéologies, les races, les etc., dualité générale. Et ensuite, une dualité à l'égard de la nature elle-même, à laquelle doit la vie. Et on a en quelque sorte instauré l'écologie. Il n'y a pas longtemps, il y a une journaliste qui est venue me voir, internationale, qui faisait une enquête sur l'eau. Je lui dis, madame, vous êtes de l'eau, donc vous faites une enquête sur vous-même. Et je crois que ce clivage qu'on a mis, l'être humain contre l'être humain contre la nature, etc., fait qu'aujourd'hui, ben, on donne beaucoup plus d'importance à la violence, aux armes, à toutes ces stupidités, qu'à la vie elle-même. Écoutez, j'ai vérifié que ce combat que nous menons, il est juste. Parce qu'on peut mener des combats du type idéologique, où chaque idéologie croit qu'elle a la vérité. C'est malheureusement ce qui fait que chaque religion croit qu'elle a la vérité, etc. Nous menons un combat qui est rattaché à quelque chose d'incontestable, c'est-à-dire la vie elle-même, et à laquelle nous devons la vie. Donc nous sommes dans quelque chose de juste. Nous ne sommes pas dans quelque chose qui va opposer quoi que ce soit à quoi que ce soit. C'est simplement cette belle nature. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'agresser à un tel point que nous sommes en train de nous éradiquer, puisqu'on transgresse les lois fondamentales. Alors je ne me fais pas de... On dit détruire la planète. Je ne fais absolument pas de soucis pour la planète. Elle a mille et une ruses. Depuis les milliards d'années qu'elle existe, elle a mille et une ruses pour se régénérer. Donc c'est pas un problème. Le problème aujourd'hui, c'est que les êtres humains, il faut qu'ils prennent conscience de leur inconscience.
Oui.
Moi, chacun a son histoire. Moi, je suis né dans le désert du sud de l'Algérie. À la limite, j'ai rien à voir avec vous. Vous voyez, nous sommes en train de converser avec beaucoup de bonheur. Et donc, ce qui fait que l'humanité, pendant des millénaires, elle a été, chaque groupe humain a été conditionné à vivre selon les valeurs, les lois, qui sont les siennes. Et donc, on est de plus en plus identifié par notre appartenance historique, alors qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à nous réunir sur la conscience et non pas sur notre histoire. Notre histoire nous divise et notre conscience, surtout quand cette conscience, elle est humaniste et qu'elle est préoccupée de la vie, là, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus aucune frontière parce que l'écologie, c'est ce qui concerne absolument tout le monde.
Oui.
Vous savez, compte tenu de ce que j'ai subi dans ma vie avec les ruptures, les choses compliquées, ne serait-ce que partir orphelin, etc., et on a tous des itinéraires et on se dit, j'ai eu la chance que cet itinéraire douloureux, au lieu de me plonger dans la révolte violente, m'a plongé au contraire dans la reconnaissance de la vie et dans être un desserviteur et faire partie de cette confrérie des gens qui cherchent à réparer et à prendre soin de la vie plutôt qu'à la détruire. Ben oui, parce que tant que nous ne serions pas délivrés de la peur fondamentale, une des peurs fondamentales de l'être humain qui fait qu'il est très angoissé, c'est qu'en fait nous savons que nous sommes là que dans cette réalité que provisoirement. Parce que l'homme a peur, voilà, et c'est les peurs qui font qu'il y a une division. Et cette division, évidemment, la peur suscitée par cette division fait qu'on regarde même pas l'autre comme un... C'est-à-dire, tout est relatif finalement. tout est relatif et il ne faut pas nous prendre pour plus que nous sommes. Nous sommes périssables, nous sommes, etc. Si l'humanité devient enfin intelligente, elle s'en sortira. Si elle continue à être comme elle est, violente et donnant de l'importance à la mort plus qu'à la vie, elle s'éradiquera elle-même. Je suis optimiste, je travaille à mon petit niveau comme un colibri. Et en plus, nous sommes dans une société de la surabondance, mais qui consomme beaucoup d'anxiolytiques. Donc, c'est-à-dire, l'objectif aujourd'hui de l'humanité, c'est quand même la joie d'être heureux. Et si nous voulons être heureux, nous le pouvons.
Voilà, chers auditeurs, c'est Lou qui a accompagné Pierre Rabhi. Découvrons maintenant Joël de René, qui est un scientifique, quelqu'un qui fait de la prospective, qui avait déjà publié Le Macroscope, L'Homme symbiotique, et qui, à 80 ans, s'interroge et sort son dernier livre sur Je cherche à comprendre, et le sous-titre Les codes cachés de la nature. C'est un livre de synthèse qui interroge l'homme et les mystères de l'univers. Écoutez Joël, qui est une autre lecture très complémentaire à toutes celles que vous avez eues, et pour l'accompagner, c'est Le Vent que j'ai choisi.
La morphogénèse, c'est-à-dire la genèse des formes, dans l'espace et dans le temps, m'a toujours passionné. Au cours de mes études, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant. C'est pourquoi j'ai voulu débuter ce livre, cette extraordinaire harmonie de la nature, cette unité de la nature, par les phénomènes de morphogénèse. Alors, de qui je parle? D'abord, évidemment, de Fibonacci, 12e siècle, avant Léonard de Vinci, qui a, par la série de Fibonacci, montré que l'organisation des plantes, l'organisation des coquillages, l'organisation des galaxies, suit une forme qu'on retrouve toujours systématiquement. Et quand on divise un nombre de la série de Fibonacci, le plus grand par le plus petit, on trouve le nombre d'or. C'est pourquoi aussi je parle du nombre d'or. Mais surtout, j'attache énormément d'intérêt au travail de Alan Turing, qu'on connaît surtout pour son travail sur le code Enigma, qui a permis de décrypter le code des nazis pendant la guerre, mais on le connaît beaucoup moins pour ses travaux mondialement connus sur la morphogénèse. Comment les taches apparaissent sur la peau du léopard? Comment les rayures apparaissent sur les zèbres? Comment se forment des taches sur les coquillages? Donc je parle de tout cela dans mon livre parce que la morphogénèse de Turing a été une façon extraordinaire de mieux comprendre les formes dans la nature. Mais je n'oublie pas non plus ce que j'ai dit tout à l'heure en commençant, c'est la morphogénèse dans le temps. Comment le temps se structure par des réactions, comme les réactions, le nom est compliqué, mais je les explique bien, Belousov-Zabotinsky, des Russes qui ont montré qu'il y a des formes qui oscillent d'une forme dans une autre et se stabilisent dans des formes très complexes qu'on ne peut pas prédire par les réactions classiques. Il y a des codes que l'homme programme à la suite des codes de la nature. Et cette prise en main des codes le conduit à des propositions, à des applications qui risquent de nous concurrencer nous-mêmes en tant qu'hommes. Donc c'est pourquoi j'ai voulu remonter à ces codes de la nature, ce qu'on appelle évidemment pour programmer la société le code du travail, le code des impôts, le code pénal, le code social, même le PIN code pour entrer sur son ordinateur ou le digicode. Mais il y a aussi le code source. Le code source pour l'intelligence artificielle, le code source pour ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning, qui sont des codes qui sont échangés maintenant sur Internet et qui permettent à des grandes entreprises d'aller au plus profond de l'intelligence artificielle, de réaliser ce qu'on appelle la reconnaissance des visages, la reconnaissance des formes, la reconnaissance du langage parlé, la synthèse vocale. Donc ce sont ces codes sur lesquels je me suis penché, parce que comme ils font peur, il faut que j'arrive à montrer où ils vont et à quoi ils servent. Et ces codes, je pense que nous pouvons les maîtriser en faisant en sorte qu'on ajoute au numérique et à la technologie un lien social, un lien humain. C'est pourquoi je débouche sur un humanisme technologique dans ce livre, pour essayer de montrer comment on a des voies alternatives pour éviter d'avoir peur de l'intelligence artificielle et des robots, et de montrer comment, par ces voies alternatives, on peut créer une intelligence augmentée. pour essayer de répondre à cette question de la peur de l'intelligence artificielle, de la peur du futur, beaucoup de scientifiques se sont lancés dans ce qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est la possibilité de modifier l'homme par des cellules embryonnaires, des implants dans le cerveau, de le remplacer en pièces détachées, de telle sorte qu'il vive presque éternellement. Il ne meurt pas, oui, 150, 200 ans. Moi, je critique beaucoup cette approche, en tout cas l'idéologie transhumaniste, parce que je la trouve égoïste, élitiste et narcissique. Elle se concentre sur l'individu. Alors que moi, depuis des années, dans mes livres, j'essaie de me concentrer sur l'intelligence collective, sur l'intelligence augmentée résultant de la connexion des hommes, les uns entre autres, avec notamment l'écosystème numérique dans lequel on est rentré aujourd'hui. Donc, ce que je prône à la place du transhumanisme, c'est ce que j'appelle l'hyperhumanisme, c'est-à-dire être encore plus humain. Comment ? Il y a eu beaucoup de critiques faites par Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking, en disant que l'intelligence artificielle allait suppléer l'homme et qu'on allait devenir esclave de la machine. Je pense qu'ils se trompent, parce qu'ils font ils ont une réflexion malthusienne. C'est-à-dire ils déduisent que l'intelligence humaine augmente de manière linéaire et l'intelligence artificielle de manière exponentielle. C'est à la fois vrai et faux. Pourquoi ? Parce que l'intelligence humaine, en symbiose avec l'intelligence artificielle, en symbiose avec les robots et avec le cerveau planétaire qu'on est en train de construire grâce à Internet et à l'écosystème numérique, peut devenir une intelligence collective augmentée. Et c'est ça qui conduit pour moi à ce que j'appelle l'hyperhumanisme, c'est-à-dire être encore plus humain que moins humain, dominé par l'intelligence artificielle et les robots. Et pour moi, l'hyperhumanisme se fonde sur l'intelligence augmentée collective et le rétablissement de toutes les valeurs humaines fondamentales. Le respect de l'autre, l'empathie, l'altruisme, l'amour, la générosité, la solidarité. Alors je dis pas que ça va arriver, sûrement. Je dis que c'est une alternative possible et qu'on a tout pour y arriver.
Joël de René, Je cherche à comprendre, sous-titre Les codes cachés de la nature, dans la collection Les liens qui libèrent. Un très beau livre, et je me permets de vous dire, chers auditeurs, un livre facile à lire, malgré ce que vous avez pu entendre par moment tout à l'heure. Joël est un scientifique, mais son livre est très très facile à lire. Et il reprend une citation de Michel Foucault dans une note de son livre que je vous donne. La vie de tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d'art ? Pourquoi une lampe ou une maison sont-elles des objets d'art et pas notre vie ? Belle question de cet homme de 80 ans qu'il donne à nous présentement et aux générations qui viennent. Alors nous arrivons au 9e auteur. Quel est ce 9e auteur ? Eh bien c'est vous, auditeur, c'est moi, c'est chacun. Il ne suffit pas de lire des auteurs, il convient aussi de s'autoriser à être auteur. Bien sûr, l'écriture est souhaitée, mais si vous n'écrivez pas, ça ne vous empêche pas d'être auteur. Penser et agir autrement, c'est certainement une ardente obligation pour faire face à cette mutation impressionnante dans laquelle nous sommes. Apprendre à devenir le philosophe de notre existence. Apprendre de sa vie, faire en sorte que nous soyons auteurs de notre vie, de la vie, pour plus d'humanité en humanité. Développement, écologie et apprentissage tout au long de la vie. Ces apprentissages touchent à l'éducation. Alors l'éducation d'hier, c'est terminé. L'éducation d'hier, c'était, selon Durkheim, la science des générations adultes sur les enfants et les adolescents pour les conformer à ce que la société a entendu. Cette conception est finie. L'éducation tout au long de la vie est apparue à la fin du XXe siècle et ne cesse de prendre de l'ampleur, bien trop lentement. Elle concerne tout l'être, toute la vie, toutes les dimensions. Et si nourrir et élever, qui a toujours caractérisé l'éducation, est bien toujours présent, c'est plus que jamais le complexe et le plus enrichissant de nourrir et d'élever. Et les horizons sont très élargis. Dans cette perspective, il faut cesser de confondre enseignement et éducation. D'ailleurs, Luc Ferry le rappelle dans un de ses livres récents, et il a totalement raison. Bien sûr, ne pas oublier le contexte de notre époque, où se jouent quatre enjeux majeurs. La technologie, Joël le rappelait, le vivant, il y aurait beaucoup à dire. Le combat entre destruction et création. Et si on prend le pôle de la destruction, c'est la violence, c'est la barbarie, c'est le refus de partager. L'insistance à écarter l'autre comme l'étranger. Le devenir d'humain, et demain, nous y sommes déjà, du cosmos. Une mondialisation inévitable, mais où elle est sauvage et parfois inhumaine, où elle est inventée, régulée, conçue dans de nouveaux vivre ensemble. Nous avons quatre choix. Détruire, combattre, ne rien faire, fuir. Revenons aux entretiens de Corence. Les premiers entretiens au second en 2018 s'ouvrent un chantier qui concerne tous les projets qui ont été présentés le deuxième jour. Bien plus que l'émergence d'un nouvel esprit, d'une nouvelle conception, c'est un nouveau monde qui est en train de naître. Les travaux en atelier demanderont sans aucun doute des confrontations, des rencontres. Et autour de cette problématique, en quoi et comment, par et avec les apprentissages tout au long de la vie, peut-on produire un développement solidaire, écologique, durable, pour nous et pour la génération suivante? Non pas de grandes idées au terme d'une société, non, non, au niveau du quotidien pour chacun d'entre nous. Le temps est trop court, je ne vais pas avoir le temps de vous présenter ma conception, ça sera mis dans la note de synthèse. Nous reviendrons en 2018 pour les seconds entretiens de Corence. Alors, Corence sera peut-être l'un des 1000 territoires apprenants, projet remarquable du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, projet réalisé en étroite collaboration avec l'UNESCO. Mais en attendant, allez visiter ce village, et si possible, participer à l'une des grandes fêtes annuelles, dont celle de la musique dont on vous a parlé tout à l'heure. Pour terminer cette émission, ce très beau texte attribué à Pablo Neruda, mais qui est en fait une autre personne, c'est une invitation à vivre, à produire une vie vivante, à musicalité, développement, écologie et apprentissage tout au long de la vie. C'est une invitation à entrer comme acteur et autant que faire comme possible comme auteur dans la très grande mutation en cours. Écoutons ce texte lu par Anna, et cette fois ce sont les oiseaux qui l'accompagnent.
Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, qui ne lit pas, qui n'écoute pas de musique, qui ne sait trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement, celui qui détruit son amour propre, qui refuse toute aide. Il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude, qui refait chaque jour le même chemin, qui ne change jamais de repère, n'ose jamais changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, de celle qui redonne lueur dans les yeux et restaure les cœurs brisés. Il meurt lentement, celui qui ne change pas de cap quand il est malheureux au travail ou en amour, qui ne prend aucun risque pour courir après un rêve, qui ne se permet, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, de fuir les conseils sensés. Vis aujourd'hui. Risque-toi aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Ne te laisse pas mourir lentement. Ne te prive pas d'être heureux.
Voilà, chers auditeurs. Demain, dans l'émission, je vous présenterai un éditeur, libraire, qui parcourt les monts qui entourent Grasse. Et puis, il y a un auteur à qui je poserai la question d'écriture. Mercredi, ça sera la présentation d'une expérience dans un lycée professionnel à l'écriture. Et puis, un hommage. Celui qui n'était pas prévu, mais que nous ferons à l'Italie, si proche. Chers auditeurs, belle soirée. Et à bientôt.